Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Okapi. Les Parecos déplorent le fait que ses troupes soient forcées d'aller au centre de brassage. Déclaration faite par son président au moment où des combats sont signalés entre le FRDC, le Pareco et le FDLR au Nord Kivu. Les cas de morbidité et mortalité dus au paludisme baissent dans le district sanitaire de Bunia. Conséquence positive de l'appui des organisations nationales et internationales, pendant que Ban Ki-moon appelle pour une couverture universelle afin d'éradiquer la maladie d'ici 2010. Une centaine de veuves et orphelins des militaires évacués de la base militaire de Kamina. Reportage à suivre dans la seconde partie de cette édition. Et voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Alors que les échanges de tirs et escarmouches persistent au sud du territoire dans le Nord Kivu, entre les FRDC, les FDLR et les Parico, ces derniers déplorent que ces troupes soient forcées par les FRDC d'aller au centre de brassage. Selon le président des Parico, l'acte d'engagement signé à Goma prévoit d'abord le regroupement volontaire des troupes intégrant le groupe armé avant leur acheminement dans des centres de brassage. Firmin Maté, président du Parico.
Il y a une situation à regretter parce que les FRDC ne sont pas mandatés pour regrouper les éléments du groupe armé au brassage. Mais c'est le programme Amani qui doit prononcer cela et qui doit organiser cela parce que nous avions défini dans le programme Amani que d'abord les centres de regroupement des éléments du groupe armé, puis la question de FDLR devrait suivre. Mais maintenant, nous sommes un tout petit peu surpris de constater que c'est maintenant le désarmement de FDLR par rapport à l'organisation des centres de regroupement pour permettre aux troupes de groupe armé de pouvoir d'abord être orientées dans les centres de transit pour finalement le brassage. C'est après que le désarmement des FDLR pouvait commencer.
Firmin Maté n'a toutefois pas fait allusion aux différents accrochages qui les ont opposés aux troupes du CNDP de Laurent Kunda. Pour le porte-parole militaire du CNDP, les incidents enregistrés entre son mouvement et le Pareco est la conséquence d'une collaboration entre le Pareco et les combattants outo-rwandais des FDLR non signataires de l'acte d'engagement. Séraphin Miringui, porte-parole militaire du CNDP.
C'est depuis que nous avons signé l'acte d'engagement que nous avons pu observer plus plusieurs incidents entre nos troupes et ceux du Pareco, tout simplement parce que le Pareco sont liés aux FDLR qui ne sont pas signataires de l'acte d'engagement. Néanmoins, nous sommes en train de chercher comment nous pouvons sortir dans cette situation, dans cet imbroglio, parce que ça risque de compromettre même les engagements que nous avons pu signer, alors que nous tous, et le peuple congolais, et nous tous signataires de l'acte d'engagement, nous devons regarder dans la même direction pour pouvoir une paix globale, une sécurité pour tous. Moi, je pense que c'est une question qui doit être mise à la table, parce qu'il y a des membres de Pareco qui sont dans les assises, ils doivent justifier et nous expliquer pourquoi et comment ils continuent à travailler avec les forces négatives et ils s'attellent tout simplement à nos forces.
Dossier signé Sifa Maguru. Signalons que la 8e région militaire ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. Pour rappel, depuis le week-end dernier, plusieurs escarmouches et échanges de tirs ont été enregistrés dans le Nord Kivu. Ceux-ci ont eu lieu au sud du territoire de Lubero entre les FRDC, les Pareco et FDLR. Accrochage également dans la région des Kirotiers au sud du territoire de Masisi entre le Pareco et les troupes du CNDP de Laurent Kunda. Pourtant, les groupes armés signataires de l'acte d'engagement de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement de deux Kivu ont pris l'engagement ferme le mercredi dernier à Goma de cesser toute reprise des hostilités et de procéder au désengagement de leurs troupes sur le terrain. Toujours à l'est, la société civile du Sud Kivu dénonce la poursuite de menaces et intimidations anonymes des défenseurs des organisations des droits de l'homme, observateurs du procès Maïché qui se poursuivent à Bukavu. Dénonciation faite hier au cours d'une réunion de mise au point. Dans un document signé par tous ses membres, la société civile demande au gouvernement une protection effective pour les défenseurs. Elle demande aussi aux organismes internationaux et notamment à la MONUC de communiquer sur ce procès et de le filmer. Sophie Roudy Odile, observatrice du procès Serge Maïchi et membre de l'organisation Protection Internationale, nous en parle.
Quatre observateurs ont reçu des SMS concernant cette affaire. Les avocats, en l'occurrence les avocats de la défense, ont reçu également des SMS anonymes récemment. Nous avons évidemment communiqué à tous les réseaux d'ONG internationales les faits et les menaces qui étaient en train d'être proférées de manière anonyme. Nous avons évidemment saisi les autorités congolaises pour leur demander de réagir fermement à ce qui était en train de se passer. Par ailleurs, nous avons en premier lieu porté plainte puisque nous attendons qu'une enquête puisse établir qui profère ces menaces anonymes.
Retour à Kinshasa, le mouvement de libération du Congo laisse à Yves Kisombe le soin de prendre ses responsabilités après sa radiation du parti. Le secrétaire général de ce parti l'a dit hier à Radio Okapi quelques heures après la décision du bureau politique du MLC. Décision prise jeudi dernier à Kinshasa à la suite d'actes répétés d'écart de la ligne du parti en posant des actes qui ont porté préjudice à l'image et aux intérêts du MLC selon François Mwamba. François Mwamba est au micro de Diafungoyi et il nous parle de la suite des événements.
Y a-t-il une incidence sur son mandat? C'est un problème collatéral. Je crois savoir qu'il y a un lien entre le fait d'obtenir un mandat dans le cadre de ce parti et lorsqu'on n'en fait plus partie. Je crois savoir qu'il y a des conséquences. Je vous dis que ce n'est pas la démarche principale. Maintenant, il appartient dans un premier temps à l'intéressé de savoir ce qu'il a à faire. Étant mis dans cette situation-là, est-ce qu'il prend toutes ses responsabilités par rapport à ce mandat ou est-ce qu'il laisse la latitude au parti de poursuivre les choses à travers un dossier judiciaire? Si c'est ça souffrira et je vous dis que ce n'est pas l'essentiel.
Autre chose à présent, la première journée mondiale contre le paludisme, c'était hier, vous le savez, en Ituri. Les cas de morbidité et mortalité dus au paludisme sont en baisse dans les districts sanitaires de Bunia. Selon les autorités sanitaires, le nombre de malades enregistrés sont passés de 50 000 en 2005 à 36 000 pour l'année 2007. Cette réduction est due à l'appui des organisations nationales et internationales engagées dans la lutte contre cette endémie en Ituri, ont ajouté les autorités sanitaires. Il s'agit notamment de la puis en médicaments du Fonds européen pour le développement 9e FED. Cependant, pour le médecin chef de la zone de santé de Bounia, des défis énormes restent encore à relever. Dr Hassani Aboubar est au micro d'Isaac Remoyope.
Il y a eu de l'eau, des moustiquaires qui nous ont été fournis par le programme de promotion des soins de santé primaire et par l'UNICEF. Et aussi la vulgarisation de certaines mesures de lutte à travers les relais communautaires dans les communautés. Cela peut justifier une légère baisse des cas. Le défi qui reste à relever, c'est de continuer encore à mener la sensibilisation auprès des communautés parce qu'il y a certaines communautés qui jusque-là ne comprennent pas encore toutes les mesures de sensibilisation menées à leur endroit.
À Bunia, le paludisme recule. À New York, le secrétaire général des Nations Unies met le monde au défi d'éliminer aussi rapidement que possible la mortalité due au paludisme. Dans un communiqué de presse rendu public hier, dans le cadre de la commémoration de la première journée mondiale de la lutte contre le paludisme, Ban Ki-moon lance un appel pour une couverture universelle afin d'éradiquer la maladie d'ici 2010. Parmi les mesures concrètement annoncées, il y a la distribution de moustiquaires traités à l'insecticide longue durée ou la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent dans des habitations de toutes les populations à risque. Il y a aussi la mise en place d'établissements de santé publique pour le diagnostic et l'administration des traitements efficaces du paludisme. Santé encore, environ 1000 décès pour 100 000 naissances vivantes ont été enregistrés en 2007. La plupart des cas ont été signalés dans des zones de santé de Bunia, Aru et Tchopolindi, nous sommes de la province orientale. Ceci a été relevé au cours d'un atelier organisé du 21 au 25 avril dernier par la Coordination provinciale de la santé et de reproduction avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Atelier pour la redynamisation des activités de ce programme dans les différentes zones de santé de la province. Selon la coordinatrice provinciale du programme de la santé et de reproduction, la non-intégration du programme de santé et de reproduction est à l'origine de cette situation. À cela, il faut ajouter le manque d'équipement adéquat dans les structures sanitaires ainsi que du personnel formé. Dr Gisèle Hassel-Loa, coordinatrice provinciale du programme de la santé de reproduction, est au micro des Godelive au Mondo.
Nous avons la non-intégration vraiment des activités de planification familiale dans notre province et le fait qu'on n'a pas beaucoup de partenaires qui interviennent dans les domaines de santé de la reproduction. Nous avons un problème très sérieux en matière de sensibilisation de la communauté. Nous voulons que les gouvernements continue vraiment à lutter contre la pauvreté, parce que la pauvreté fait à ce que la personne qui n'a pas de moyens ne puisse pas aller vers la structure de référence et la réhabilitation de nos routes. C'est très important, on peut avoir une ambulance, mais si la route n'est pas bonne pour permettre à la personne d'accéder rapidement à la structure de référence, parfois la femme peut mourir en cours de route. Qu'on puisse former les prestataires en matière de prise en charge des urgences gynéco-obstétricaux.
Le gouvernement norvégien se propose d'aider la République démocratique du Congo dans un projet de reboisement de ses forêts. Le ministre norvégien de l'Environnement et du Développement et son homologue congolais ont effectué hier une visite à Alibuku, un village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Kisangani dans la province orientale. Le ministre norvégien à l'Environnement et Développement s'est réservé de révéler le coût de ce projet.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
La suite du journal avec vous, Thérèse Kankou. 77 familles sont sans abri au village Mungwandanda, à 20 km de la cité de Kwilungongo. Nous sommes dans le Bas-Congo.
C'est la conséquence d'une forte pluie accompagnée des vents violents qui s'est abattue la nuit du jeudi à vendredi dans cette partie du pays. Au moins 30 maisons s'y sont écroulées, 47 toitures emportées, l'école primaire Makono de la communauté baptiste du fleuve Congo, l'unique école de ces secteurs, est détruite. On compte par ailleurs 8 blessés, dont 3 enfants qui ont été acheminés au centre de santé d'État de Kisangi.
Et puis Thérèse, direction Katanga maintenant, où une centaine de veuves et orphelins de militaires a été évacuée de la base militaire de Kamina.
Ces familles sont transférées à la gare de la SNCC où ils devront attendre un train à destination de leur milieu d'origine. Cette opération a été lancée jeudi par l'état-major général des FRDC en vue de loger des militaires actifs. Selon un officier de la base militaire de Kamina, les veuves et orphelins des militaires réclament les frais de sortie du camp avant leur départ. Colin Djuma Moussampo.
L'opération a débuté au mois de mars dernier par un enregistrement de veuves et orphelins. Les familles enregistrées par la délégation de l'état-major des FARDC avaient pour destination Likasi, Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Kindu et Kisangani. Le rapatriement de ces familles permettra de désengorger la base militaire de Kamina et loger par la suite les militaires actifs. Ce jeudi, ces familles ont été obligées de quitter leur maison. Elles sont à la gare de la SNTC où elles devront attendre un moyen de transport. Selon un officier de la base militaire, ces familles devront être prises en charge par la Direction nationale des œuvres sociales militaires. Une fois arrivées à leur destination, chaque famille devra bénéficier d'un kit de sortie du camp. Mais les veuves et les orphelins, eux, exigent ces kits de sortie avant leur départ de Kamina. Entre-temps, l'administrateur du territoire de Kamina déplore la présence de ces familles militaires à la gare. Selon lui, ces familles sont souvent abandonnées en gare et cela crée une crise sociale. De Lubumbashi, Colin Djuma Moussampo, Radio Okapi.
Enfin, au Kassai occidental, plusieurs dizaines de femmes ont manifesté hier dans les diverses artères de la commune de Lukonga à Kananga.
Elles s'insurgeaient contre les habitants qui offrent asile aux personnes accusées de vol à main armée. En rappel, la police a constaté ces derniers trimestres une recrudescence de ces cas de banditisme dans la ville de Kananga. Parmi ces cas, l'assassinat d'un chauffeur de taxi-moto.
Merci Thérèse. La page internationale dans cette édition, l'espoir du président Robert Mugabe de reprendre le contrôle du Parlement à la faveur d'un nouveau décompte des voix semble s'être nettement amenuisé samedi au Zimbabwe où une répression policière s'est abattue dans les rangs de l'opposition. Selon les quotidiens pro-gouvernemental Herald, le nouveau décompte partiel des suffrages exprimés lors des élections législatives ne devrait pas annuler la victoire historique de l'opposition, une première en 28 ans d'indépendance. 13 circonscriptions ont été vérifiées jusqu'à présent. Si le parti de Mugabe, la ZANU-PF, veut retrouver sa majorité perdue au Parlement, il lui faudrait être déclaré vainqueur dans 9 des 10 circonscriptions où les vérifications sont toujours en cours, précise le quotidien samedi dans son édition électronique. Le sport enfin, Gary Kikaya ne défendra pas son titre de champion d'Afrique en 400 mètres au 16e championnat d'Afrique des Nations prévu du 30 avril au 5 mai prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Le Congolais vivant aux États-Unis souffre d'une élongation au niveau de la jambe droite contractée le 17 avril dernier lors de son entraînement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre particulière attention.